19h-20h, Cash sur table sur Arabelle.
Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Cash sur table pour nous intéresser ce soir au blocage politique à Bruxelles, bien sûr c'est d'actualité, et ses conséquences notamment sur le secteur non marchand. Nos invités ce soir, Sandrine Couturier, directrice de l'ASBL Convivance, bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous également Hadj Moussa Diallo, sénateur et député bruxellois Les Engagés, bonsoir.
Bonsoir.
Et va nous rejoindre dans une poignée de secondes Gisèle Mandeila, députée Défi à la région bruxelloise. Alors, en l'absence d'un gouvernement de plein exercice, plus d'une centaine d'associations bruxelloises actives dans les domaines de la santé, du social, de la culture, qui répondent aussi aux besoins d'une population plongée dans l'incertitude, qui réclament plus de droits et attendent beaucoup plus d'une solution de ce blocage politique. Et on va commencer avec le commencement, si vous le voulez bien, avec vous, Sandrine Couturier, avec un encadré du secteur non marchand, son rôle, son importance. Est-ce que vous pouvez, disons, d'une manière générale, nous définir ce secteur et son rôle essentiel dans notre société aujourd'hui, Sandrine?
Mais donc, je précise, je suis donc directrice de l'ASBL. Je ne suis pas là en tant que fédération du non marchand. Donc, je ne vais pas vous donner une réponse tout à fait claire et exhaustive. Mais disons que c'est le non marchand. Il va offrir une multitude de services d'aide à la personne et dans des domaines très, très variés qui vont de la santé, culture, logement, mais aussi le handicap, les personnes victimes de violences sexuelles, l'isolement des personnes âgées, la prévention des assuétudes. Donc, on a vraiment un secteur très, très large. Et on est des associations qui, en fait, mettons en œuvre des politiques publiques. On est des acteurs de première ligne, on est au contact direct avec les personnes, avec des situations de détresse sociale, les situations que ces personnes rencontrent. Et je pense qu'on est un pansement là où il y a sur des blessures sociales, là où il y a des blessures sociales. Et je dirais qu'on fait tout un travail que les administrations ne font pas, qu'on est les seuls à faire. Je pense que nos missions principales, c'est surtout donner accès aux droits, aux personnes qui ont justement, qui rencontrent des difficultés pour y avoir accès. Et puis, dernière chose, on est aussi tout un secteur économique, puisqu'on représente beaucoup d'emplois, d'emplois qui sont directement au service des Bruxellois, des emplois qui sont occupés aussi par des Bruxellois. Et il me semble important de préciser que la part qui est dans nos budgets, la part qui est consacrée à l'emploi, ben moi, dans mon ASBL, il avoisine les 90%. Donc, je veux dire, si on a des coupes budgétaires, ben c'est immédiatement des pertes d'emploi.
Justement, peut-être plus précis, est-ce qu'il y a des défis spécifiques rencontrés par les organisations non marchandes? Et justement, comment ce secteur soutient-il ces personnes vulnérables en l'absence de moyens?
Alors, pour l'instant, on a, il y a la situation là maintenant qui est extrêmement compliquée. Après, on est quand même soutenu, on a des moyens, on est quand même important. Mais je dirais que les défis auxquels on est confronté, par rapport à la population, ça je l'ai dit, c'est vraiment la question du non-recours aux droits, de pouvoir donner accès à ces droits des personnes qui ont des difficultés pour les obtenir, mais c'est aussi mobiliser les personnes, c'est, je pense, leur redonner confiance dans leur capacité à agir sur leur environnement. Mmh. Et donc nous, en tant qu'organisation, les difficultés qu'on rencontre, mais c'est... le fait que on est dans une certaine, on est dans la précarité. Je dirais que les travailleurs sont eux-mêmes dans une forme de précarité parce qu'on est avec des subsides facultatifs, parce que moi j'ai des subsides annuels alors qu'ils sont devenus récurrents, donc je peux pas dire que je suis inquiète d'une année sur l'autre, mais je peux avoir des coupes budgétaires d'une année sur l'autre, et donc ça rend quand même le travail difficile. Et là aujourd'hui, la difficulté, c'est que, par contre, on n'a aucune visibilité sur ce qui se passe, sur ce qui vient.
On va y revenir dans quelques instants. Je me tourne vers vous, Hadj Moussa Diallo. C'est important de souligner vraiment le travail essentiel que fait le secteur non marchand.
Oui, c'est aussi l'occasion de leur dire merci pour tout le travail qu'ils abattent sur le terrain, pour créer des liens, pour soutenir les plus vulnérables, pour des projets qui sont des projets humains. Et nous, engagés, c'est notre ADN, l'humain. Oui, effectivement, les associations, toutes les structures non marchandes méritent toute notre attention, surtout en cette période un peu particulière. Bruxelles vit des moments assez compliqués, compte tenu du fait que c'est une première, qu'il y ait autant de mois sans gouvernement de plein exercice, avec toute la volonté qui nous anime. Nous avons mis en place tout un ensemble de mécanismes depuis le lendemain des élections, jusque par l'étape d'informateur. Les engagés ont toujours répondu présent pour essayer de trouver une solution pour que Bruxelles retrouve un gouvernement de plein exercice pour faire face aux nombreux défis qui nous attendent. Donc, premier mot, première expression, c'est dire merci pour le travail que vous abattez. Et nous avons à cœur, effectivement, de maintenir ces liens, de maintenir ces structures sociales pour faire vivre Bruxelles autrement.
Gisèle Mandela, députée des filles de la région bruxelloise, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Arabelle. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes formulées il y a quelques instants par Sandrine Couturier ?
Mais totalement, totalement. Je pense que, comme elle a si bien dit, les secteurs associatifs, le secteur non marchand, c'est quelque part un pansement. C'est un secteur qui répond au manquement de pouvoir public dans certains domaines. Et donc, on parle aujourd'hui de la toxicomanie qui va grandissant. Et qui sont les personnes qui sont au contact de ces personnes qui ont ces difficultés? C'est d'abord le monde associatif. Et je voudrais aussi, moi ici, saluer tout le travail que le monde associatif fait. Je pense que sans le monde associatif, on va rencontrer encore beaucoup plus de difficultés, rien que pour ces secteurs-là que je viens de citer. Mais on a toute la lutte contre la pauvreté, les mamans solo, la précarité et la santé mentale, bien entendu. Il y a énormément de choses et moi, je comprends totalement les inquiétudes de ces secteurs, d'autant plus que ça fait presque, on va faire quoi, peut-être un an, mais non, c'est pas 9 mois qu'on n'a pas de gouvernement. Et quand il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de budget de plein exercice. Et donc, on est obligé de travailler sur les 12e provisoires. Et en même temps, mais ces 12e provisoires votés peut-être au Parlement, certaines associations, moi j'ai encore rencontré hier, on a été chez Rainbow House, on a encore rencontré des associations qui n'ont pas encore touché les subsides, enfin faculté de voter le 12e provisoire, et ils ne savent plus quoi faire. Ils font face à des difficultés financières, ils ne peuvent plus avoir des crédits à la banque parce qu'il n'y a pas de garantie, les banques ne veulent pas prêter parce qu'il n'y a pas de garantie, et donc les associations sont à sec au moment où on vous parle. Et donc il est plus qu'urgent qu'aujourd'hui, en tout cas, les négociateurs puissent mettre un peu leur égo des côtés et venir avec un gouvernement de plein exercice, parce que ce sont les citoyens qui sont en train de trinquer, les citoyens et les associations bien sûr qui les aident. Donc c'est totalement inadmissible de jouer comme ça avec la vie des gens.
Alors Sandrine Couturier, vous pensez que le secteur non marchand mérite davantage de financement ou je dirais aussi de souplesse au niveau de la législation ?
Je pense qu'il y a les deux. La difficulté qu'on rencontre, je dirais, au niveau de la législation, c'est qu'on est, nous, ce qu'on voudrait, c'est des subsides structurels, pluriannuels, qui nous permettent de nous sortir de cette précarité, d'avoir une visibilité et aussi de pouvoir gérer ces associations en chef d'entreprise avec une visibilité sur plusieurs années qui nous permettent, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a... la majorité va dans le personnel, pour peu qu'il y ait quelqu'un qui est malade, en congé de maternité, il y a moyen de jouer quand même un petit peu avec ça. En termes de financement, d'abord aussi vous dire que ces subsides facultatifs, il n'y a pas l'indexation, ça ne tient pas compte de l'augmentation des salaires. On est un secteur en fait qui ne coûte pas très cher au regard de nos barèmes, des avantages sociaux. Et donc en tout cas ce qu'on demande, c'est d'avoir un financement à la hauteur des enjeux qu'on doit traiter dans la société.
Mahaj Moussa Diallo, est-ce que vous pensez que les acteurs, puisqu'on parle politique du secteur, ne sont pas suffisamment impliqués justement dans la prise de décision politique à Bruxelles ?
Nous pensons, en tout cas, à chaque rencontre avec le monde associatif, on a l'impression qu'ils sont écoutés, mais pas totalement. Nous préconisons, vous savez que notre ADN, comme je l'ai dit, c'est le facteur humain. Nous pensons que la participation citoyenne est un facteur important dans le processus de décision. Nous pensons que les associations doivent être des partenaires. Vous êtes des partenaires dans la gestion de la chose publique. Vous n'êtes pas des sous-traitants, vous êtes des partenaires à part entière. C'est notre vision et c'est notre objectif. Mm-hmm. D'ailleurs, dans nos propositions, dans le manifeste des engagés, il est clairement indiqué que nous voulons plus de subventions structurelles, moins de paperasserie administrative, parce que quand on prend les subsides dont vous faites allusion, les subsides facultatifs, vous passez, ou les subsides annuels, vous passez presque la moitié du temps à justifier le subside dans des procédures administratives, c'est que vous déconcentrez un peu de l'objet de l'innovation sociale, de faire avancer les projets sociaux. Nous préconisons avec force la mise en place d'un mécanisme de simplification administrative et la mise en place d'un mécanisme de subvention plus structurel, 3, 5, en fonction des projets. Ceci permettra une certaine, en tout cas, de lutter avec efficacité contre la précarité dont vous faites allusion. Pour terminer, au mois de février dernier, j'ai organisé un colloque au Parlement bruxellois autour des acteurs de la cohésion sociale. Un éminent professeur disait « Comment voulez-vous que des personnes précarisées puissent s'occuper d'autres précarisés ?» Donc, quelque part, c'est indispensable de faire en sorte que ceux qui gèrent le monde précarisé soient au moins dans une situation de stabilité.
Gisèle Mandela, votre avis sur cette question du secteur non marchand qui n'est pas suffisamment impliqué dans la décision politique?
Non, je ne pense pas que le secteur non marchand ne soit pas impliqué de manière active dans les décisions politiques. Au contraire, en tout cas, pour ce qui est de défis, en tout cas, aidez-moi personnellement, nous travaillons toujours avec les secteurs associatifs. Avant de poser une question, avant de faire une interpellation, on interroge les mondes associatifs pour savoir exactement quels sont leurs besoins pour nous permettre, en fait, nous, parlementaires, surtout nous, parlementaires, de pouvoir interpeller le gouvernement, qui est l'exécutif, qui, lui, a des moyens, qui, lui, en fait, oui, c'est lui qui a l'action. Et donc, je pense que les associations sont écoutées, mais ne sont pas suffisamment écoutées. Ben, aujourd'hui, on voit avec l'Arizona, ben, certains ont décidé de plaire à un électorat. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on zappe tout un pan de la société, le monde associatif, parce que, quelque part, on a l'impression que le monde associatif, ben, c'est la ligne de la société, c'est des gens qui viennent déranger, c'est des gens qui viennent, ben, voilà, des fainéants qui ne fait que gratter. Et donc, mais, de manière générale, je pense que les partis politiques ou certains hommes ou femmes politiques qui connaissent les terrains, qui travaillent avec les terrains, écoute les mondes associatifs, parce que sans les mondes associatifs, on ne sait pas, moi je ne sais pas faire une interpellation si je ne suis pas à l'écoute du monde associatif. Mais oui, il faut le reconnaître aujourd'hui, certains hommes politiques de l'Arizona ont décidé de, ben voilà, de couper, de sabrer là où ils pensent que ce n'est pas nécessaire pour privilégier, en fait, quoi, le monde des finances, le monde des entreprises. Donc voilà, c'est ça en fait. Ben oui, certains sont un peu coupés de la réalité du terrain. Et je pense qu'il serait temps qu'ils descendent un peu sur le terrain et comprendre.
Alors je vois que vous hochez de la tête un petit peu, Hajboussa Diallo, une réaction par rapport à cette formule utilisée par Gisèle Mandela, plaire à un certain électorat.
Je pense que quand on est responsable politique, on se doit une certaine hauteur, au-delà des idéologies, au-delà des partis, une certaine hauteur qui relève de l'humain. Aucun responsable politique démocratique ne peut se permettre, comme ça, du jour au lendemain, de décider de supprimer des subventions qui sont essentielles. Nous sommes des responsables politiques qui sommes dans le concret. Pourquoi? Lorsque ce pays, ou en tout cas les entités de ce pays, ont été longuement gérées par une vision de dépenser ce qu'on n'a pas, à un moment donné, nous sommes rattrapés par ce gap. Il faut agir par des réformes sérieuse, ambitieuse, pour assurer la stabilité financière de ce pays. Ceci passe nécessairement par des réorientations. Ceci ne veut pas dire qu'on va couper des subventions dans le simple but de les couper. Nous sommes dans une situation budgétaire difficile, que ce soit à Bruxelles, que ce soit au niveau fédéral. Les responsables politiques que nous sommes doivent aussi avoir de la hauteur pour pointer du doigt que nous avons trop dépensé par la dette, on s'est endetté pour consommer. À un moment donné, il faut arrêter, freiner cela pour que le pays retrouve une stabilité. Et tous les secteurs vont subir cette réforme. Mais nous ferons en sorte que ce qui est humain soit soutenu, soit défendu. Les associations, vous l'avez vu dans nos propositions, les associations ont tend vers cette simplification administrative qui permettra une mutualisation de certains services, et ceci permettra effectivement d'amortir les réductions qui sont proposées. Nous ferons les réformes nécessaires avec méthode, avec accompagnement, pour que tout le monde se retrouve au bout.
Votre avis, Gisèle Mandela?
Certainement, je pense que oui. En tant que responsable politique, nous gérons qui? Nous gérons d'abord les humains. Mmh. Et quand on gère les humains, on sait ce qui est nécessaire pour les humains. Il est vrai que les déficits de la Belgique nous rattrapent et nous devons faire des réformes. Je pose la question, sommes-nous obligés de faire des réformes là où les gens en ont le plus besoin? C'est ça la question. Être responsable politique, c'est allier l'humain et l'efficacité. Aujourd'hui, on va sabrer dans tout ce qui est secteur non marchand. Nous allons nous retrouver encore avec des gens qui seront encore plus dans la précarité. On va encore avoir des problèmes au niveau des santé mentale. Et avec toute cette charge qu'il y a, mais qu'est-ce qui va se passer après? On va devoir financer à nouveau peut-être les soins de santé parce que ça va coûter plus cher à l'INAMI. Et puis, qu'est-ce qu'on va se dire? Oui, on doit aller chercher de l'argent là où c'est nécessaire. Mais je ne pense pas que... je pense qu'il y a de ces secteurs sur lesquels on ne doit pas toucher. On sait trouver de l'argent autrement. On vient de le voir. Pour la défense, on a trouvé combien de milliards pour la défense? On nous parle de la guerre qui est à nos portes. Je ne pense pas, sincèrement, que la Russie va nous faire la guerre d'ici là. Je ne pense pas qu'ils sont aussi fous, Poutine est aussi bête pour envahir l'Europe. Mais là où on fait des efforts pour la défense, alors qu'on a des gens qui sont en train de mourir de faim, on a des gens qui sont dans la toxicomanie, donc je pense qu'à un moment donné, oui, il faut faire une politique de manière efficace et efficiente, mais en tenant compte de l'humain, sabrer là où c'est nécessaire, parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas aujourd'hui faire des économies. J'ai dit qu'il faut le faire, mais il faut voir dans quel secteur il faut le faire. Si on arrive à trouver 12 milliards, je ne sais plus, autant de milliards pour la défense, je crois qu'on peut laisser les secteurs non marchands, peut-être en l'état actuel, sans sabrer, et voir un peu si, je ne demande pas qu'on augmente, mais à tout le moins qu'on leur permette de poursuivre dans la configuration actuelle.
Un raisonnement logique, Hadj Moussa Diallo?
Vous savez, je suis acteur politique, mais qui vient du monde associatif, de la société civile. Je sais de quoi je parle, au-delà des postures de partis, d'opposition, de partis de gouvernants, je sais de quoi il s'agit. Mais il faut aussi reconnaître et admettre que la gestion de certains subsides, la gestion de certaines subventions, la gestion de certains mécanismes d'octroi de ces subventions à ces ASBL a fait défaut à un moment. Ben, il faut recentrer tout ça, rendre opérationnelles les associations par la simplification administrative. Lorsqu'on dégage suffisamment du temps pour une convention pluriannuelle qui vous permet de disposer de moins de fonctionnement, cela vous libère de toute cette paperasserie administrative pour pouvoir justifier une subvention annuelle qui parfois, vous recevez 80% du subside et puis les 20% qui sont débloqués suite à d'autres démarches administratives longues et difficiles. Nous voulons une simplification administrative. Nous voulons que les associations qui ont des projets et qui ont des projets pérennes puissent fonctionner normalement. Ce que nous voulons combattre, c'est cette gabegie financière qui tend à distribuer de l'argent à gauche, à droite, de l'argent qu'on n'a pas. Et ce pays a été géré de cette manière depuis un certain temps. Il faut que cela cesse. Je pense que lorsqu'on est responsable politique, on doit avoir la hauteur pour dire la réalité telle qu'elle se présente. Le blocage actuel de la région de Bruxelles, ce sont des millions d'euros qui, chaque jour, par faute de décision, on va continuer dans ça?
On y reviendra dans quelques instants sur ce blocage politique à Bruxelles. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après.
19h-20h, Cash sur table sur Arabelle.
Et on retrouve nos invités ce soir, Sandrine Couturier, directrice de l'ASBL Convivance, Gisèle Mandela, députée des filles à la région bruxelloise, et Hage Moussa Diallo, sénateur et député bruxellois, les engagés. Je me tourne vers vous, Sandrine Couturier. Peut-être une réaction par rapport aux interventions précédentes de nos politiques.
Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est toujours aux mêmes qu'on demande de faire des économies, dans le sens où on est un secteur qui est en permanence soumis aux économies. Je veux dire, tous les ans, on demande... bien sûr que, moi, si je vois l'évolution de mon ASBL, nos subsides ont augmenté, mais on demande quand même toujours plus d'argent pour faire face aux enjeux. Et on ne reçoit pas cet argent et on continue à traiter toutes les questions auxquelles on est confronté. Et parmi les choses qui sont aussi difficiles et les défis auxquels on est confronté, c'est qu'on a de moins en moins de réponses à apporter aux gens qu'on accompagne. Moi, je suis dans le logement. La crise du logement abordable et décent, elle est telle aujourd'hui qu'on a quand même du mal à répondre aux personnes qui vivent dans des logements insalubres et qui, en fait, ne veulent même pas qu'on contacte leurs propriétaires, malgré qu'ils vivent dans un logement tout à fait insalubre, de perdre ce logement et de ne pas pouvoir en retrouver un autre. Donc, on a aussi du mal à accompagner les personnes parce qu'elles sont dans une situation tellement précaire qu'elles ne veulent pas perdre le peu qu'elles ont. Et la question que j'ai envie de vous renvoyer, c'est nous, on a l'impression que on a bien conscience de la situation budgétaire à Bruxelles, et je pense qu'on en a particulièrement conscience parce qu'on est quand même en contact quotidien avec les personnes les plus vulnérables de cette région. Mais on a un peu l'impression que c'est un peu facile et visible de travailler sur les subsides facultatifs. Hein, ça, c'est le voilà. Mais quel est le gain qu'on va retirer en diminuant de 15%, par exemple, les subsides facultatifs, par rapport aux milliards qu'on doit trouver? Et je pense que dans le budget, il y a des économies à faire, mais il y a aussi des choix politiques à poser. Mmh. Et c'est vrai qu'on ne partage évidemment pas le choix qui serait fait de diminuer encore les subsides de l'associatif.
Hage Moussa Diallo, que répondez-vous à ce déséquilibre évoqué par Sandrine Couturier?
Madame Sandrine, la situation, je sais que les associations y font face avec résilience. Mais effectivement, c'est compliqué, c'est difficile pour tout le monde. Mais je vous l'ai dit tantôt, lorsqu'on est responsable, on est amené à prendre des décisions. Et les décisions doivent refléter l'état des finances du pays. Les finances du pays ne sont pas bonnes. Il faut effectivement trouver les voies et moyens pour remettre le pays d'aplomb et afin de continuer à financer tous les systèmes que nous connaissons, la pension, tous les mécanismes qui garantissent notre indépendance sur tous les plans. Quant aux coupes, les réductions qui sont envisagées, effectivement, ce sont des réductions avec une possible diminution de 15% des subsides facultatifs régionaux. C'est une menace, mais néanmoins, le secteur doit être ouvert à une réflexion. À une réflexion où est-ce que l'efficacité et la mutualisation des services dont j'ai parlé tantôt vont permettre d'absorber cette diminution. Mais si nous mettons en place, admettez avec moi que certaines subventions sont quand même des subventions qui sont accordées à la volonté du chef. Il faut que ça cesse. Nous connaissons dans certaines administrations, qu'elles soient communales ou à d'autres niveaux de pouvoir, où est-ce que on décide de donner à l'ASBL X un montant sans pour autant que cela n'ait un impact utile pour la localité. Nous voulons arrêter tout ça, faire en sorte que les ASBL qui portent des projets dans le domaine de la santé, dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de la cohésion sociale, mettent des projets utiles pour toute la collectivité, que ces structures puissent être accompagnées par une simplification administrative, par des subventions plus durables, mais aussi que ces ASBL puissent bénéficier également d'un accompagnement dans le cadre de la formation en gestion de projet, pour permettre à ces ASBL de s'adapter. Vous connaissez pertinemment à quelle allure les choses avancent. L'informatique, l'intelligence artificielle et tout ça, mais tous ces éléments doivent intégrer la gestion de demain. Soyez rassurés, nous, notre parti, dans n'importe quel attelage où il se trouve, la défense de l'humain reste un élément central. Tout de même, nous devons rester réalistes face à la situation qui nous préoccupe. Ceux qui nous disent aujourd'hui, vous faites des coupes à gauche, à droite. Vous vous imaginez si on n'avait pas pris la responsabilité de rentrer dans cette négociation gouvernementale au niveau fédéral, où est-ce qu'on se serait situé aujourd'hui?
lorsqu'on est autour de la table, on vient avec nos revendications, avec nos propositions, mais quand on est amené par un esprit de construction, on rentre dans une situation où est-ce que chacun cherche à trouver le fondamental pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on a fait dans les négociations avec l'Arizona, et c'est ce qu'on fera à Bruxelles, c'est ce qu'on fera partout où on sera impliqué.
Gisèle Mandela.
Je voudrais rebondir un peu sur ce que M. Diallo dit. En disant, oui, faire des coupes budgétaires, ben, 15%, oui, c'est nécessaire de le faire. On est tout à fait conscient qu'il faut le faire. En même temps, il appelle à une réflexion avec les mondes associatifs, mais alors qu'ils ont déjà décidé de faire des coupes de 15%. Sur base de quoi ils ont décidé ça? On sait pertinemment bien qu'il faut chercher des moyens aujourd'hui, parce que Bruxelles est en déficit énorme. Oui, il faut. Et là où je remets encore le curseur sur la question, c'est de dire pourquoi, comme Mme Goudury l'a dit, pourquoi toujours toucher au secteur qui est vital pour l'humain? Et quand j'entends les engagés qui mettent l'humain en avant et qui acceptent encore qu'on fasse des coupes budgétaires sur l'humain, moi, ça me pose question. J'ai bien dit, je le répète, oui, il faut trouver des moyens pour résorber ces déficits au niveau de la région ou même au niveau du pays. Oui, mais il faut faire des choix. Il faut opérer des choix qui soient des choix objectifs pour permettre en fait à la société de continuer à vivre. Je vais donner un exemple. 15%, on dit à un moment donné, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Il faut savoir que par exemple pour Ounia, on a réduit de 25% son budget. On voulait même éliminer Ounia, et sur ce, je remercie les engagés qui se sont quand même battus au niveau d'Arizona pour qu'on puisse maintenir les subsides des Ounia. Mais on va raboter ça de 25%. Et 25%, c'est quoi? C'est plusieurs équivalents, je crois qu'une quarantaine d'équivalents temps plein qui vont sauter d'ici, on ne sait pas quand. Et en plus de ça, il y a des projets qui ne pourront plus être poursuivis, alors que les discriminations à l'emploi, le racisme et tout ça augmentent. Il en est de même pour les secteurs de la santé. Je vous ai parlé de la toxicomanie, je vous ai parlé de la santé mentale, de la précarité grandissante des familles monoparentales. Mais où est-ce qu'on choisit de sabrer? C'est encore dans ces domaines-là. Donc, nous, au niveau des défis, nous avons demandé, et je pense que lorsque nous avons discuté des 12e provisoires au niveau du Parlement bruxellois, nous avons demandé à ce qu'on repense en effet les modèles de financement des associations qui chaque année doivent renouveler leurs subsides, doivent demander avec une certaine incertitude de savoir s'ils vont, recevoir des sous ou quoi. Nous plaidons pour une approche stable, c'est-à-dire un subside annuel, renouvelable. Pour répondre à la question de M. Diallo qui dit oui, on a saupoudré comme ça de l'argent à des associations, oui, nous demandons à ce qu'il y ait une évaluation, un suivi et une évaluation des projets. Au terme d'une évaluation positive, alors à ce moment-là, on pourrait renouveler ou avoir un plan pluriannuel des 5 ans. Nous avons demandé qu'on objective d'urgence les critères d'octroi des subsides, de connaître les dossiers. Et les dossiers qui seront mieux présentés, ben ces dossiers-là vont bénéficier des subsides, d'un subside structurel à long terme. Et des projets qui arrivent comme ça, des copains, des amis qui ne sont pas bien ficelés ou qui ne sont pas fondés, ben ceux-là qui grignotent dans le budget, ben ceux-là, on ne les prendrait pas. Donc pour ça, il faut des critères objectifs. Il faut vraiment objectiver les critères pour pouvoir avancer. Donc je pense que aujourd'hui, dire que prenez vos responsabilités pour résorber les déficits au niveau de la région, oui, au niveau du pays, oui, mais je voudrais encore rappeler quelque chose. Par exemple, au niveau de la déductibilité fiscale de 45 à 30% pour des dons que les donateurs font, ben, il faut savoir qu'avec ça, l'Arizona tue les bénévolats. Ces associations travaillent beaucoup avec les bénévoles. Et les associations dépendent de ces dons. Et Yann Yambon lui-même, membre de la NVA, l'Arizona, dit avec cette coupe budgétaire, cette réduction des déductibilités fiscales de 45 à 30%, on fera une économie seulement de 40,26 millions. Et ce n'est même pas... C'est des peanuts, ça ne va même pas résorber en fait le déficit. Mais alors pourquoi aller sabrer là? Moi je pense qu'on peut aller chercher des moyens ailleurs, mais pas là où les gens en ont le plus besoin, parce que, je suis désolée, ça touche les citoyens aujourd'hui. Je ne sais pas, vous venez de parler des personnes qui sont dans la précarité, qui vivent dans des logements insalubres, qui n'osent même pas, qui ne veulent même pas que vous demandiez, que vous appelez le propriétaire, parce qu'ils vont perdre leur loyer, ou plutôt leur logement, ils vont se retrouver dans la rue. Mais ça va augmenter les nombres des personnes précarisées, les nombres des sans-abri. Et surtout quand on voit qu'il y a de plus en plus de femmes avec, comme Corée, les violences faites aux femmes qui se trouvent dans l'espace public. Donc, je ne peux pas comprendre qu'à un moment, on se dise, oui, nous, on veut travailler pour... on met l'humain au centre, mais on laisse quand même... Ben voilà, dans les négociations, on va quand même encore aller chercher là où il y a l'humain.
C'est un paradoxe. Juste avant une réponse de Haj Moussa Diallo, je me tourne vers vous, Sandrine Couturier. Est-ce que, comme vient de dire Gisèle Mandala, repenser les modèles des associations, c'est une piste plausible, réalisable et réaliste?
Mais, donc moi j'entends la question du saupoudrage, en tout cas c'est pas ma réalité. Mm-hmm. Je veux dire, moi, les associations avec lesquelles je travaille, je trouve qu'au contraire, on a plutôt du personnel qui est engagé, qui est expérimenté, qui est formé, et je veux dire, on a quand même des contrôles qui sont... importants et qui, je pense, sont quand même bien faits par les administrations. Donc, je veux dire, moi, j'ai... Alors oui, on peut faire des simplifications administratives, on peut nous aider un petit peu à mieux nous organiser. Il y a certainement des choses à faire. Mais moi, je repose ici la question de... Enfin, d'abord, je n'en suis pas convaincue, honnêtement. Oui. Mais soit, et je pense qu'on est prêt au dialogue, je pense qu'on est prêt à discuter, et on s'est toujours, je pense, présenté comme étant des interlocuteurs de discussion. Mais... Je repose la question de, et madame l'a dit, c'est 15% qu'on va nous retirer aujourd'hui. Je veux dire, on va se le prendre en boomerang dans un an, deux ans, trois ans, parce que, et on a déjà une manière d'aborder la précarité avec une vision plutôt curative. Et je veux dire, le curatif coûte toujours plus cher que le préventif. Mmh. Et donc, moi, vraiment, je maintiens le fait que je pense que ces coupes budgétaires, elles se font à un mauvais endroit, aussi parce qu'on travaille l'humain, mais on travaille exclusivement pour les Bruxellois. Et toutes les politiques qui sont menées, Bruxelles est une capitale, c'est un poumon économique, mais on a la population avec le taux de chômage le plus important dans cette région. Il y a quand même quelque chose là qui ne va pas. Et donc, voilà, moi, je pense que l'enjeu, il n'est pas sur l'associatif. Je pense que l'enjeu, il est ailleurs.
L'effet boomerang, Haj Moussa Diallo.
Bien, je voudrais dire merci à Mme Gisèle d'avoir dit plus haut et fort que Ounia, c'est nous, les engagés, qui se sont battus pour que ce qu'on a pu sauver soit sauvé. Je voudrais aussi vous dire que la déductibilité fiscale dont on parle, des dons de 45 à 30%, c'est nous. Il y en a d'autres qui voulaient qu'on n'en parle plus du tout. Je pense alors, partant ne fût-ce que de ces deux exemples, que la présence des engagés dans cette discussion a le mérite de mettre l'humain au centre de nos préoccupations. Je voudrais aussi vous dire que sur cette déductibilité, bien vrai, c'est un outil qui aide, mais ceux qui veulent vraiment donner, ceux qui veulent vraiment aider, ceux qui veulent vraiment agir pour la société, n'attendent pas un acte de déduction fiscale pour le faire. Il y en a qui le font de manière anonyme. Nous les encourageons, nous les félicitons. Ces nombreux anonymes qui font des gestes à des associations pour pouvoir aider le fonctionnement des associations. L'effet boomerang. Avec tout le respect que je dois à toutes les personnes autour de cette table, ne prenons pas non plus le travail de tous ces acteurs politiques autour d'une discussion, autour d'une négociation pour former une coalition gouvernementale pour du beurre, pour du rien. Ce sont des experts en tout domaine, que chaque parti met à contribution et qui réfléchissent sur les meilleurs chemins possibles, en tenant compte, encore une fois, le processus démocratique veut que lorsqu'il y a des élections, à l'issue des élections, des partis qui ont gagné le plus de voix puissent se retrouver pour pouvoir diriger. Parce que le processus démocratique veut comprendre par là que c'est ce projet, ce programme qui a été proposé aux populations qui a eu le plus grand nombre d'adhésions. On ne va pas venir mettre en doute le mécanisme démocratique lui-même. Parce que tous les projets qui ont été débattus pendant la campagne, ce sont ces projets qui se retrouvent autour de la table de discussion. Nous sommes, je l'ai dit et je le réaffirme, un parti de dialogue, un parti de participation citoyenne. Notre porte est grandement ouverte, que ce soit au niveau de Bruxelles, que ce soit au niveau fédéral, avec le monde associatif, pour voir des dispositions et des mesures qui sont prises, comment faire en sorte que l'applicabilité soit la meilleure possible. Mais lorsqu'un acteur politique, de quelque niveau que ce soit, se tourne vers vous pour vous dire qu'il y a encore de l'argent dans le bas de laine qu'il faut aller prendre pour mettre à disposition, il est en train de faire une campagne avant l'heure. La réalité est ailleurs. Dernier élément, pour dire que ce n'est pas que le monde associatif qui est visé par ces mesures, tous les cabinets ministériels ont été pratiquement réduits de moitié. Mais ça, on ne le dit pas. Parce que simplement, c'est dans la vision de ramener l'exécutif dans sa responsabilité première, faire marcher l'État avec rigueur, avec justesse, avec équitabilité. C'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, ceux qui passent à longueur de journée à nous critiquer d'avoir fait ça, ben c'est parce qu'on l'a fait. N'eût été cela. Au fédéral, ce serait un blocage. À la région, un blocage qui aurait pu, qui peut mesurer cet impact d'une Belgique fédérale non gouvernée, d'une région de Bruxelles non gouvernée. Nous avons pris notre responsabilité et soyez rassurés que l'humain reste notre préoccupation. Alors, je vous recevrai avec grand plaisir au Parlement bruxellois pour qu'on puisse envisager des discussions pour faire avancer. En tout cas, ce processus.
Le blocage politique à Bruxelles et ses conséquences, notamment sur le secteur non marchand, marque une courte pause et on se retrouve juste après.
Sur table, sur Arabelle.
Et pour la dernière ligne droite, on retrouve tout de suite nos invités, Sandrine Couturier, directrice de l'ASBL Convivance, Gisèle Mandaïla, députée Défi à la région bruxelloise, et Hadj Moussa Diallo, sénateur et député bruxellois, les engagés. Alors pour rebondir un petit peu par rapport à tout ce qui a été dit, on le disait en off il y a quelques instants, en substance, est-ce que tout le monde doit faire l'effort, tout le monde doit essayer de faire l'effort pour trouver les sous, pour, vous avez évoqué, Moussa Diallo, que les caisses de l'État sont pratiquement vides, donc on passe de l'armée jusqu'aux petites ASBL. C'est un peu en substance tout ce qu'il faut faire.
Ici, nous sommes dans une situation où est-ce que la responsabilité de chacun, chaque citoyen et les acteurs politiques en premier, doivent être engagés. La région de Bruxelles vit une situation inédite. 9 mois sans gouvernance, des 12e provisoires qui sont votés avec un mécanisme mathématique, sans tenir compte effectivement de chaque projet, sans tenir compte de chaque article budgétaire, on vote mathématiquement le budget de 2024 divisé par 12 et prolongé en tenant compte de certains cavaliers budgétaires. Ceci, on ne gère pas un pays avec ça. La première responsabilité à laquelle nous appelons, c'est aux acteurs politiques d'assumer leurs responsabilités face à la région et face à l'histoire. Bruxelles s'enfonce dans la crise, crise politique, crise budgétaire, et si rien n'est fait, sous peu, peut-être, elle sera placée sous tutelle. Parce qu'on ne peut pas continuer à creuser ce déficit par l'absence d'action politique. Appelle aux acteurs politiques de se retrouver autour de la table, donner à Bruxelles un gouvernement de plein exercice qui va essayer de redresser la barre et s'orienter vers un lendemain d'espoir.
Juste une précision, Hadj Moussa, pour expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices, mettre Bruxelles sous tutelle.
Ben, mettre Bruxelles sous tutelle, ça sous-entend que Bruxelles est une région, une entité qui fait partie de l'État fédéral belge. Lorsque les acteurs politiques que nous sommes élus pour prendre nos responsabilités, nous ne le prenons pas, la région ne va pas continuer ad vitam aeternam à vivre sous ces conditions de 12e provisoire.
C'est le fédéral, qui va gérer Bruxelles.
La responsabilité nous donne mandat de dépasser ces clivages de personnes, ces postures d'individus, pour prendre la posture de la responsabilité, s'asseoir autour de la table, faire ce qu'on a fait au niveau fédéral, faire les compromis nécessaires pour que Bruxelles retrouve le chemin, le bon chemin de la gestion saine, de la gestion rigoureuse et de la gestion au profit des citoyens. L'effort budgétaire qui est demandé, c'est une réalité. La réalité fait que, à tous les niveaux de pouvoir, le pays a été géré pendant un certain temps d'une manière aussi laxiste, celle de dire, dépensons tout de même, s'il n'y a pas, on s'endette. À un moment donné, nous avons cette responsabilité vis-à-vis des générations futures pour leur dire, nous n'allons pas vous léguer nos dettes. Nous sommes des gens responsables, il faut des réformes sérieuses pour stopper cette descente budgétaire. Mais aussi, une responsabilité dans la gestion de la chose publique. Faire en sorte que le responsable privilégie d'abord l'intérêt de la collectivité en lieu et toute autre considération paritocratique. Nous sommes dans un blocage à Bruxelles. Tout le monde sait qui bloque Bruxelles.
Qui bloque Bruxelles ?
Ben, ceux qui refusent, avec des exclusives, nous ne monterons pas parce qu'il y a tel ou il y a tel. Le mécanisme démocratique a voulu, en tout cas jusque maintenant, que Bruxelles soit composée de 89 élus, 72 du côté francophone, 17 du côté néerlandophone. Le mécanisme a prévu de faire des majorités doubles du côté néerlandophone et du côté francophone. J'appelle à tous les acteurs politiques de se retrouver. Sauvons cette région pendant qu'il est encore temps. Mmh. N'attendons pas que nous soyons dans des situations. Vous savez que la banque, je termine peut-être par ça, la banque avec laquelle travaille notre région, la principale banque avec laquelle travaille notre région, a émis une alerte en disant attention, si rien n'est fait, nous allons trouver des situations où est-ce qu'on ne parlera plus de subventions, plus de coupes budgétaires de 15%, plus de coupes budgétaires de 20%, mais ce serait une faillite de la gestion de notre région. C'est ce que nous ne voulons pas et c'est pour ça que nous sommes investis dedans depuis le lendemain des élections jusqu'à maintenant. La mission d'information, c'est à l'initiative des engagés et de Groen pour permettre encore aux acteurs politiques de se parler.
Pas trop tard. Éviter une faillite de Bruxelles, la capitale pourtant de l'Europe. Gisèle Mandela, on parlait de mise sous tutelle. Cette problématique est un peu à l'image de la complexité de la chose politique à Bruxelles, puisque Bardo Weber ne veut pas entendre parler. Georges Dubouché dit oui, c'est une possibilité. On est encore dans un flou artistique.
Oui, il est vrai que tant que la région n'a pas trouvé des solutions ou n'est pas sur une table de négociation et venir avec une proposition, il y a ces risques-là d'être mis sous tutelle. Sous tutelle du fédéral, c'est-à-dire que c'est le fédéral qui va devoir gérer en fait la région bruxelloise avec tout ce que nous connaissons comme conséquence, vous voyez déjà avec le gouvernement Arizona, tout ce qu'on a comme conséquence qui peut arriver. Donc il est en effet, tout comme M. Diallo, j'appelle aussi à la responsabilité de tous les hommes politiques, surtout ceux qui ont gagné des élections, parce que c'est un peu trop facile, après avoir fait des exclusives, de venir appeler d'autres en disant, voilà, venez, alors que vous n'avez pas gagné les élections, et alors qu'il y a 8 mois, bon, on nous avait dit, on n'a pas besoin de vous, et maintenant on commence à appeler. Non, on appelle tous ceux qui ont gagné les élections, qui étaient à la table des négociations depuis le début, ben, de mettre de côté leur ego et leurs idéaux du parti pour prendre leurs responsabilités de vrais gestionnaires de la région. Bruxelles mérite mieux que les spectacles qu'on est en train de nous donner aujourd'hui. Moi, je voudrais revenir un peu sur trois éléments
rapidement.
Donc, par rapport au mécanisme démocratique, il n'y a personne qui le met en doute, hein, Monsieur Diallo. Il n'y a personne qui met le mécanisme démocratique en doute. Ce que nous déplorons, tout simplement, c'est de, comme je préfère le répéter, c'est de dire, voilà, il est vrai qu'il faut bien gérer Bruxelles, il est vrai qu'il y a un déficit, il est vrai que tout le monde doit faire des efforts, mais là où on doit vraiment faire des efforts, mais je crois que c'était aussi des choix politiques. Il y a moyen d'aller chercher de l'argent ailleurs que de toucher au plus au domaine, au secteur le plus vital de notre région. Donc voilà, je disais qu'on ne niait pas les difficultés de la région, mais on dit que ce n'est pas dans ces secteurs-là qu'il faut aller chercher l'argent. Oui, on a parlé de la réduction au niveau des cabinets, c'est vrai. Il faut savoir que souvent, les personnes qui composent le cabinet, la grande majorité, ce sont des personnes détachées qui viennent des administrations et dont le cabinet paye un supplément. Donc c'est vrai qu'on peut réduire parce qu'on peut toujours, si on renforce les administrations bruxelloises, on peut avoir l'expertise de ces administrations parce qu'ils ont été mis en place pour épauler les cabinets. Donc Pour nous, oui, il est essentiel aujourd'hui de trouver des solutions pour éviter que Bruxelles soit mise sous tutelle. Donc là, en effet, en tout cas, en tant que défi, nous appelons à la responsabilité de chaque acteur politique, surtout ceux qui ont gagné des élections, de pouvoir se mettre autour de la table, de trouver des solutions pour qu'on ne puisse plus vivre ce que nous sommes en train de vivre et éventuellement avoir le temps de réfléchir ensemble avec les associations, avec tous les milieux, pour qu'on puisse trouver des voies et moyens pour sortir Bruxelles de ces marasmes économiques qui existent déjà depuis bien longtemps, il faut le reconnaître.
Alors Sandrine Couturier, vous avez suivi religieusement les interventions de nos politiques, une réaction?
Mais en fait, ici, la difficulté, c'est que, et je sais que vos deux parties se sont impliquées et ne font pas partie des blocages, donc ça ne s'adresse pas complètement à vous, mais là maintenant, nous, on est dans une situation où ça fait des mois qu'on nous dit qu'on va essayer de débloquer la situation, et donc maintenant, nous, on est dans un moment où en fait, on n'a aucune visibilité sur ce qui va arriver. Et on le disait, les 12e provisoires, c'est mathématique, ça n'est pas tant que ça. Parce que jusqu'à présent, moi j'ai reçu un subside à la fin du mois de mars, j'en attends 5 encore, je commence à recevoir des confirmations des subsides. Mais pour un subside, on me dit que ça va être 6 mois. Pour un subside, on me dit que ça va être 3 mois. Pour un autre, on me dit que ça va être 1 an. Pour un, on me dit qu'il va y avoir une diminution de 15%. Pour l'autre, je ne sais pas. Je veux dire, on est dans un flou complet. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai parfois l'impression qu'on présente le secteur associatif comme un secteur qui n'est pas professionnel, qui ne gère pas les finances publiques de manière rigoureuse. Alors que, voilà, là, on est mis dans une situation où il n'y a pas moyen de gérer les deniers publics de manière rigoureuse. Parce qu'il est impossible, même en imaginant qu'on accepte les 15%, à la limite, on n'aura pas le choix, mais qu'on accepte ces 15%, on ne sait pas quelles sont les missions qui vont être conservées, quelles sont les missions qu'on va nous demander d'arrêter, sur quoi. Enfin, voilà. Et donc, je trouve que, moi, j'ai un... pour moi, le non-marchand ne porte pas la responsabilité de la difficulté dans laquelle se trouve la région aujourd'hui. Et donc, je trouve ça difficile qu'on nous demande, d'une certaine manière, qu'on soit les premiers auxquels on demande de faire un effort.
Alors, rapidement, le temps passe très très vite. On a 30 secondes chacun.
Merci pour l'invitation. Je pense que c'est aussi ça, la démocratie, c'est j'échange direct et franc et sincère. Je suis preneur, encore une fois, d'une rencontre pour envisager une belle coopération, ne fût-ce que dans le cadre de l'information parlementaire. Nous avons besoin d'être nourris d'informations pour mieux nous positionner sur les sujets qui nous préoccupent. Pour Bruxelles, nous sommes tous unanimes. Il faut de la responsabilité et de la hauteur, mettre en place un gouvernement de plein exercice, essayer de redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard. Soyez rassurés qu'on se battra pour que l'humain reste dans nos préoccupations.
Je voulais abonder dans le sens de Mme Couturier. Aujourd'hui, avec ces coupes budgétaires au niveau du monde associatif, c'est comme si on jetait l'opprobre sur le monde associatif, alors qu'ils sont là, ils sont en train de faire un travail exceptionnel qui aide énormément des gens. Donc on ne peut pas aujourd'hui décider comme ça, parce qu'on doit faire des coupes budgétaires, on doit commencer par ces associations. Aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement de plein exercice. Mais qui est en train de travailler aujourd'hui face à tous ces problèmes que nous rencontrons? C'est le monde associatif qui vient pallier au manquement du monde politique. Donc il est injuste aujourd'hui de pouvoir faire des coupes budgétaires dans cette situation-là. Oui, l'urgent aujourd'hui, c'est d'avoir un gouvernement de plein exercice. Donc moi, j'appelle tous les responsables politiques à prendre leurs responsabilités afin de permettre à ces structures, peut-être de réfléchir à voir où est-ce qu'il faut faire des coupes budgétaires pour pouvoir assainir la région de Bruxelles-Capitale.
Voilà, le message est passé. Gisèle Mandela, députée des filles à la région bruxelloise. Elle a Moussa Diallo, sénateur et député bruxellois, les engagés. Et également Sandrine Couturier, directrice de l'ASBL Convivance. Merci d'avoir été avec nous sur Arabelle. Merci, bonsoir.